Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. À la fin du livre, on voit sa tombe en photo. Une tombe envahie par les mauvaises herbes. C'est pourtant celle d'une fleur, car elle s'appelait Fleur. Fleur des Oraux, un prénom choisi par son père, l'ogre des Caraïbes, de son vrai nom Raphaël Trujillo, qui régna sans partage sur la République dominicaine. Un tyran domestique aussi, notamment vis-à-vis de sa fille, qu'il maintint sous sa coupe toute sa vie durant. Toute sa vie, elle rêva d'amour et de liberté. Amoureuse, elle le fut, trop sans doute. Elle fut même mariée 9 fois, accumulant les liaisons toxiques et sans lendemain. Libre, elle ne le fut que par courts épisodes, malmenée par les intrigues de son père ou de ses demi-frères, par ses maris volages, violents ou manipulateurs, et par ses choix malheureux. Et oui, elle en a fait des erreurs, Fleur des Oraux. Elle a beaucoup espéré avant de tomber de haut, de se relever et de tomber à nouveau. Le destin malheureux d'une pauvre petite fille riche, terriblement dépendante des hommes de son entourage, dans un monde d'excès en tout genre. Une aventure terriblement romanesque que nous raconte Catherine Bardon dans un livre addictif truffé d'épisodes savoureux. La fille de l'ogre est parue aux éditions Les Escales, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Catherine Bardon.
Bonjour.
Avant La fille de l'ogre, vous avez publié Les Déracinés, une saga en 4 volumes qui racontait la vie d'une famille sur plusieurs générations, où ça, eh bien, déjà précisément en République dominicaine. Vous vivez une vraie histoire d'amour avec ce pays. Pour quelle raison ?
Bah, tout simplement parce que c'est un pays sous le charme duquel je suis tombée il y a une 30aine d'années lors de vacances, et j'ai décidé de lui consacrer du temps. Et puis c'est un pays qui m'a petit à petit apprivoisée, que j'ai apprivoisée aussi, et depuis toutes ces années j'y passe une bonne partie de mon temps, notamment les hivers rigoureux en France, ils le sont beaucoup moins
forcément
dans les Caraïbes.
Effectivement. Alors vous avez commencé en écrivant des guides de voyage, vous avez publié des livres de photos aussi. C'est un pays romanesque.
C'est un pays, d'abord c'est un très beau pays, c'est un pays magnifique, en dehors des plages que tout le monde connaît, c'est un pays de montagne aussi, c'est le pays des rivières, c'est un pays de forêt, donc c'est un très beau pays, c'est un pays extrêmement poétique, un pays extrêmement coloré, et c'est un pays avec, où le peuple est un peuple extrêmement joyeux, et avec une énergie, une envie de vivre et une qualité de partage incroyable. Donc c'est un pays sous le charme duquel tombent beaucoup d'étrangers.
Un pays qui est encore marqué par le régime de Raphaël Trujillo, ou pas du tout ?
Non, plus du tout. C'est-à-dire que Raphaël Trujillo a été assassiné en mai 61. Ensuite, a suivi une période un peu trouble, une invasion américaine en 65, où les marines sont débarquées, les Américains voulaient prémunir la République dominicaine contre les libéraux, les communistes et surtout l'exemple cubain. Et ensuite, petit à petit, s'est installée une démocratie à l'américaine avec un président élu, un Sénat et...
Voilà. Alors Trujillo a régné, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autre mot. Hein. Bon, il était président, mais chef d'État en tout cas. Il a régné donc sur la République dominicaine de 1930. Il arrive au pouvoir à la faveur d'un coup d'État jusqu'à son assassinat dans une embuscade contre sa voiture en 1961. Alors il n'a pas été président durant toute sa période, mais enfin, il a été vraiment un élément marquant pour le pays, donc de la dictature militaire, une dictature sans partage dont on découvre par petites touches plusieurs aspects dans le roman. En fait, vous brossez un portrait, Catherine Bardon, assez terrifiant du dictateur lui-même. Vous l'appelez d'ailleurs à plusieurs reprises par la première lettre de son nom. Vous l'appelez juste T. Pourquoi ?
Je l'appelle T parce que c'est comme ça que j'imagine que Flore l'appelait, sa fille, avec une espèce de distance. Trujillo, c'est son nom à elle aussi. T, c'est quelqu'un d'autre. Trujillo, c'est son père. Mais T, c'est le dictateur, c'est le tyran, c'est celui qui règne sur le pays. Donc ça donne, c'est un T majuscule qui donne de la dimension du personnage et aussi cette espèce de dépersonnalisation qu'il représente, enfin qu'il a.
Alors vous auriez pu raconter son histoire à lui, mais vous avez choisi de déplacer la focale en l'orientant sur sa fille, donc sa fille aînée, Fleur des Oraux. En quoi le destin de sa fille vous est-il paru plus intéressant que celui du père ?
Alors, son destin n'est pas forcément plus intéressant. La dictature de Trujillo. Trujillo a été racontée par Vargas Llosa dans La Fête au Bouc, notamment.
Le Bouc, c'était l'un de ses surnoms. Hein.
Le Bouc, c'était l'un de ses surnoms, effectivement. Et La Fête au Bouc, c'est son assassinat. Donc, Vargas Llosa raconte l'assassinat, le dernier jour du dictateur, avec des flashbacks qui, effectivement, mettent en lumière l'ensemble de son règne. Mais moi, mon objectif n'était pas du tout de raconter Trujillo. Ce que je voulais, c'était raconter sa fille, parce que ce qui m'intéressait, c'était, peut-être en tant que femme, comment une petite fille, comment une jeune fille, comment une femme vit, subit une telle filiation, comment est-ce qu'elle s'en sort, est-ce qu'elle s'en sort, comment elle peut à la fois aimer son père, parce qu'elle adorait son père, et détester l'homme qu'il est. C'est un gouffre, en fait, schizophrénique, terrible, et je me disais qu'il y avait réellement quelque chose à approfondir. Et en enquêtant sur Fleur d'Eoro, qui a été quelqu'un de très discret toute sa vie, j'ai soulevé petit à petit des pierres les unes après les autres et j'ai découvert un destin absolument romanesque dont on peut vraiment dire que sa vie a eu plus d'imagination qu'un romancier.
Alors déjà, son prénom est très romanesque. Hein. Fleur d'Eoro, qu'on peut traduire par Fleur d'Or, c'est son père qui l'a choisi ?
Alors c'est son père qui l'a choisi pour elle, oui. C'est un prénom singulier. Quand elle naît, son père est un petit truand qui vit dans la campagne dominicaine. Et malgré tout, il a déjà des ambitions. Donc je pense que c'est aussi la singularité du nom qui l'a conduit à l'appeler Fleur d'Eoro. Flore, quand elle va naître, c'est une enfant qui naît dans l'ombre d'un enfant défunt, une sœur qui est morte à l'âge de 1 an, qu'elle n'a pas connue. Et peut-être aussi, cet enfant a une valeur particulière pour ce père. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi ce nom si singulier.
Et le roman commence quand Fleur d'Eoro est encore une petite fille, que son père n'est pas encore président. Il est en train de faire de brillantes études militaires. Nous sommes en 1920, donc elle a 5 ans, Fleur d'Eoro. Et son père, son papy, comme elle l'appelle, rentre d'une permission à la maison. Alors elle est toute contente. Elle le prend par la main pour lui présenter le chiot qu'elle vient de choisir. Nous sommes à la page 10 de votre roman.
T se laisse entraîner de mauvaise grâce vers la portée, non sans avoir planté un chapeau de paille sur la tête de sa fille. Il ne faudrait pas que sa peau brunisse au soleil, elle a déjà le teint mat. Sans hésiter, l'enfant lui désigne le chiot. C'est le mien, il s'appelle Café. Son père grimace. Ce n'est pas le genre de chose qui l'attendrit. Il soupire bruyamment. Non, mi amor, pas celui-là. Il est tout noir, il est mauvais comme tous les noirs. Regarde, il vole déjà le lait des autres. Accroupie, les coudes sur ses genoux, Flore observe la portée avec attention. Son petit menton commence à trembler. Des larmes montent à ses yeux, prêtes à dévaler ses joues. Elle aimait déjà Café, mais papy a raison. Le noir prend toutes ses aises et piétine le chiot à côté de lui. Un petit blanc avec des taches rousses au bout des pattes qui font comme des chaussures. Son père le pointe du doigt. « Prends plutôt celui-là, il est blanc, tout blanc, et tu vas voir, il va devenir un tigre. Si tu t'en occupes bien, tu pourras l'appeler boule de neige. » Voilà, papy a décidé. Il a toujours raison. Il ne faut pas le contrarier, pas le décevoir. Surtout pas. Une petite fille doit se plier aux décisions de son père, surtout quand c'est un soldat. Son chiot, ce sera boule de neige. Flore ne sait pas ce qu'est la neige.
Dès la première scène, dès le premier chapitre, Catherine Bardon, on comprend que Raphaël Trujillo a un problème avec la couleur noire. Pourquoi avez-vous voulu commencer par cette scène-là ?
Alors, c'est une scène assez symbolique de ce que sera leur relation. Finalement, c'est lui qui décide et elle qui se soumet. Même si elle a des velléités d'imposer quelque chose, finalement, elle se rangera toujours à la décision de son père. Donc, c'est un petit peu le marqueur de leur relation. Et puis, il y a un deuxième symbole, c'est le petit chien noir et le petit chien blanc. Et c'est vrai que Trujillo avait une haine des Noirs et notamment des Haïtiens avec lesquels les Dominicains partagent l'île d'Hispaniola. Et pour avoir lui-même du sang noir dans les veines, puisqu'il avait un aïeul du côté de maternel, qui était haïtien. Et donc, c'est quelque chose qu'il haïssait en lui, qu'il a tout le temps essayé de masquer. On sait qu'il se poudrait le visage comme les Pierrot pour paraître plus blanc. Et Flore, sa malédiction, quand elle naît, c'est qu'elle a hérité de cette goutte de sang noir. Ce sera d'ailleurs la seule des enfants de Trujillo, des enfants reconnus de Trujillo, qui aura ce métissage tellement visible en elle.
Voilà, elle a le teint mat, elle a les cheveux indisciplinés, c'est ce que vous écrivez
oui,
aussi.
Oui, indisciplinés, frisés, oui.
Oui, ça change le regard du père sur elle.
Je pense qu'il a, il a envie justement de gommer tous ces aspects chez lui, chez sa fille, et puis sa fille qui est aussi, qui lui rappellera plus tard aussi ses origines plébéiennes. Donc il a envie, je pense qu'il aime sa fille, il aime cet enfant, mais malgré tout, il a envie de gommer en elle tout ce qui lui rappelle, ce qu'il veut oublier, c'est-à-dire son manque d'éducation, puisqu'il n'a même pas le certificat d'études, ses origines campagnardes. Et sa goutte de sang noir.
Alors on se rend compte aussi dans cette scène à quel point la petite fille veut faire plaisir à son père, à quel point elle attend une marque d'affection, de reconnaissance, un geste d'amour. Et finalement, cette attitude-là, elle va l'avoir toute sa vie. En fait, est-ce qu'on peut dire que le destin de Flore des Heureaux, c'est une quête permanente d'amour et de reconnaissance paternelle?
Oui, en quelque sorte, c'est ça, oui, absolument. C'est-à-dire qu'elle va osciller toute sa vie entre la soumission à son père et le désir d'échapper à son père, qui la rattrapera toujours. Mais quand son père la rattrape, finalement, elle se soumet. Elle se soumet parce que c'est le chef, elle se soumet parce que c'est son père. Elle se soumet parce qu'il y a d'autres impératifs aussi. Elle a une santé fragile, il a de l'argent. Donc, il y a tout un tas de raisons qui font qu'elle... Elle est dans la soumission, même si, par moment, elle essaye d'échapper à son emprise.
Oui, parce qu'elle n'aime pas, effectivement, l'emprise de son père. Elle n'aime pas le tyran domestique qu'il est, en particulier son attitude vis-à-vis de la maman de Flore des Heureaux, qu'il va petit à petit écarter de sa propre vie. Il n'aime pas non plus le fait qu'il multiplie aussi les conquêtes, y compris d'ailleurs parfois avec des femmes qui ne sont pas du tout de l'âge de son père. Il n'aime pas du tout elle n'aime pas non plus le dictateur qui va devenir, quoi. Elle est vraiment tout de suite dans cette ambivalence, en fait, dès la première scène et pendant tout au long du livre, entre l'homme qu'elle aime, le père qu'elle aime et le reste.
Oui, le tyran avec tout ce que... Enfin, le tyran, le propriétaire aussi de la République dominicaine, puisqu'il va s'approprier le pays petit à petit.
La capitale va même être renommée à son nom.
Hein, pas que la capitale, d'ailleurs. La capitale, l'aéroport, les hôpitaux, les rues, les places, les parcs, le pic Duarte, qui est le plus haut pic de la Caraïbe, s'appellera Pico Trujillo. Donc, effectivement, petit à petit, il va s'approprier le pays. C'est son terrain de jeu. Et finalement, les relations qu'il va entretenir avec sa fille sont aussi les relations qu'il entretient avec son peuple. On pourrait dire que le destin de Flore est une espèce de et l'analogie est un symbole, une image de la soumission du peuple dominicain à Trujillo.
MDN avec Catherine Bardon pour son roman La fille de l'ogre aux éditions Les Escales. Les mélomanes parmi vous auront évidemment reconnu quelques notes de la marche triomphale d'Aïda, l'opéra de Verdi, petit clin d'œil au prénom choisi par Trujillo, El Jefe, un autre surnom pour deux de ses fils, Ramfis et Radames, qui étaient donc les demi-frères de Flore des Heureaux. Catherine Bardon, un choix qui montre un peu le côté franchement mégalo, hein, finalement, du Jefe.
Absolument, mégalo, non seulement mégalo, mais je pense aussi avide d'essayer de prouver qu'il avait de la culture, que c'était un homme du monde, qu'il avait des connaissances, etc. Il se piquait d'être ce qu'il n'était pas en réalité, puisqu'il avait beaucoup de conseillers autour de lui, il avait des goûts assez pompiers.
C'était un parvenu, en fait.
Oui, totalement. C'est un petit truand de la campagne qui devient, qui lors de son assassinat, est la cinquième fortune du monde. Donc c'est un parcours hallucinant. C'est un homme qui a pesé aussi dans la politique latino-américaine, qui est intervenu sur le territoire américain pour des exactions, des enlèvements, etc. Donc c'est quelqu'un qui se croyait absolument tout puissant, absolument partout. D'ailleurs, il disait qu'il était comme Mussolini, sauf que lui, son terrain de jeu était trop petit pour lui.
Alors, il aimait aussi la culture européenne. C'est d'ailleurs en Europe, en France en l'occurrence, qu'il envoie Flore des Euros faire ses études, plus précisément dans le Val d'Oise, en banlieue parisienne, dans un prestigieux collège féminin, le collège de Bouffémont, ouvert aux grandes familles du monde entier, notamment iraniennes. Le déracinement et l'intégration sont compliqués pour la petite Flore des Euros, mais elle s'accroche. Elle s'en sort assez honorablement, elle a des notes tout à fait correctes. On sent d'ailleurs dans tout votre livre un vrai attachement de Flore des Euros pour la France, pour Paris, pour la culture française.
Oui, alors ce qu'il faut prendre en compte, c'est que je ne pense pas que ce soit les goûts de Trujillo qui l'aient amené à choisir Bouffémont. C'est qu'il a voulu pour sa fille le meilleur collège international. Et c'est vrai que toute la bonne société depuis le 19e siècle, la bonne société dominicaine, se formait en France. Donc beaucoup de médecins, par exemple, d'avocats, de juristes, d'écrivains. La France était vraiment un pays de référence et un pays dans lequel il fallait avoir passé quelques années pour... faire partie de l'élite dominicaine. Donc ce choix, il est tout à fait raisonné. Je ne pense pas que ce soit par goût de la France, parce que c'est quelqu'un qui a très très peu voyagé, connaissait peu la France. Flore, effectivement, avec ses études, va apprendre le français, va apprendre et aimer la culture française. Elle reviendra à plusieurs reprises en France, notamment avec son premier mari qui sera nommé à l'ambassade dominicaine en France. Elle aura un mari français ultérieurement. Et puis, elle a cette envie aussi de parfaire sa culture, de lire des romans. Elle a envie d'aller à l'exposition universelle quand elle a lieu à Paris. Donc, elle a vraiment une orientation vers la France. Et de même, Trujillo aura une fille qui naîtra à l'hôpital américain de Neuilly. Donc il y a vraiment un tropisme vers la France quand même de cette famille.
Alors le premier mari de Flore des Euros, vous venez de l'évoquer à l'instant très brièvement, on va s'arrêter un instant sur lui parce que c'est un personnage absolument passionnant et extrêmement romanesque. Vous racontez leur rencontre en 1932 quand Flore des Euros a 17 ans, elle vient de rentrer dans son île. Il s'appelle Porfirio Rubirosa, ce monsieur. Au début, leur histoire ressemble un peu à un conte de fées.
Oui, ce sont deux jeunes gens. Elle a 17 ans, il a 23 ans. Il est beau comme un astre. Il fait partie de la garde rapprochée de son père. Il est d'une famille noble, fils de général, général devenu diplomate. Donc, il a vécu en France. Et il partage, en fait, cette formation à la française. Ils parlent le français entre eux. Et c'est un amour de jeunesse, un coup de foudre entre deux jeunes gens. Mais... effectivement, Trujillo ne va pas leur laisser le temps de mener cette romance correctement. Il va tout de suite interdire à Flore de voir Porfirio. C'est là qu'elle va se révéler très ferme de caractère. Elle va quasiment entamer une grève de la faim jusqu'à ce que son père cède et dise « Bon, il n'y a pas d'autre solution que le mariage, donc marions-les. »
Voilà, marions-les. Et puis, il va quand même pourrir leur mariage très très vite et ils vont s'expatrier, ils vont fuir hein, en quelque sorte à New York. Et c'est là que Flore des Euros va découvrir la vraie nature de ce Porfirio Rubirosa qui est un flambeur, un playboy, un joueur, il boit, il découche, c'est un homme violent aussi, des gifles de temps en temps, mais il se réconcilie toujours sur l'oreiller. C'est un personnage qui aurait mérité un roman à lui tout seul, Catherine Bardon. Il va même avoir, lui aussi, toute une série d'aventures à travers le monde, notamment en France. Il va devenir l'amant de Daniel Darieux.
Le
mari de Daniel Darieux.
C'est sa deuxième épouse.
Comédienne, et il va mourir à Paris, d'ailleurs, dans un accident de voiture.
Oui, on dit
c'est un homme
lui...
qui a brûlé sa vie, quoi.
Oui, on dit de lui... Alors, on dit de lui beaucoup de choses. On dit de lui qu'il a eu plus d'un millier de maîtresses, dont les plus belles actrices d'Hollywood, dont Eva Perón, par exemple. Donc... marié à Daniel Darieux. Il a eu sa cinquième épouse, était une Française, une jeune actrice française qui avait 35 ans de moins que lui, à peu près, quelque chose comme ça, Odile Rodin. Il a été marié à la femme la plus riche des États-Unis, la méritienne des American Tobacco. Donc c'est un homme qui a effectivement brûlé sa vie, mais c'est un homme aussi... on dit de lui qu'il a servi de modèle à Ian Fleming pour le personnage de James Bond. C'est un homme de main de Trujillo. Il est très beau. Il a beaucoup de prestance, il monte à cheval comme un dieu, il est capitaine d'équipe de polo, il participe aux 24 heures du Mans. En fait, il a deux passions dans la vie, ce sont les femmes et l'argent.
Voilà, un homme qui va faire beaucoup souffrir Flore de Haro, mais qu'elle ne pourra jamais oublier, dont elle restera toujours amoureuse au fond d'elle-même, malgré tout ce qu'il lui a fait subir. Ainsi, à Rome, en mai 1947, on est 9 ans après leur divorce, nous sommes à la page 223 de votre livre.
Ils ont vécu tant de choses ensemble. D'un coup, lui revient leur premier regard échangé sur le port de Saint-Domingue, par-dessus l'épaule du jefe, un regard déjà lesté d'un incontrôlable désir. Leur flirt éhonté au nez des vieilles barbes et des duègnes, leur bras de fer avec T, la façon dont elle l'avait scotché en le gagnant de vitesse à cheval, son grand rire victorieux, leur noce pluvieuse, leur fuite à New York, leur voyage, les beaux jours, les sales jours. Il est curieux de voir la femme qu'elle est devenue. Il a su pour ses mariages et ses divorces. Il les a encaissés, non sans un certain dépit épicé de jalousie. Sans hésiter, Porfirio fait livrer un colossal bouquet de roses rouges au Majestic. Flore l'entend sourire au téléphone quand il l'appelle. Elle cherche à contrôler les palpitations de son cœur. En vain. Il y a une petite fêlure dans sa voix quand elle lui parle, mais elle se reprend vite. Une impatience fébrile s'empare d'elle. Ruby, c'est la fraîcheur de la jeunesse, l'exaltation de l'aventure, le parfum de l'interdit, la certitude du scandale aussi. À l'idée de le revoir, l'émotion lui coupe le souffle. Au fond de son ventre, une terrible impatience, le désir de lui, jamais mort, qui se réveille, la vieille plaie qui se rouvre. Flore sait qu'elle s'avance vers un précipice qui l'attire inexorablement. Elle va se laisser tomber. C'est malgré elle, c'est inéluctable. Soudain, elle n'a rien de plus urgent que ça. Reconquérir Ruby.
Alors on peut appeler ça de l'amour, Catherine Bardon, on peut aussi appeler ça une dépendance.
Oui, c'est une forme de dépendance. Donc après leur divorce, qu'elle a demandé, puisque effectivement il la trompait, c'était devenu invivable leur relation, donc elle a demandé le divorce, et j'imagine que Porfirio a mal accepté que la rupture vienne d'elle.
Et, son orgueil de mâle était blessé.
Sans doute, oui, sans doute. Son orgueil de mâle latin était blessé, oui. Et à de multiples reprises, il a essayé de la revoir, de lui proposer des vacances, de la reconquérir. Et à Rome, effectivement, alors qu'il est fiancé déjà avec une Américaine, donc cette fameuse héritière des tabacs, il va revoir Flore et il va essayer de renouer avec elle.
Alors, on ne va pas tout raconter. Voilà. Et son père, comme d'habitude, va se mêler, évidemment, de cette affaire. Donc, il y a cette dépendance, je redis le mot, vis-à-vis de Porfirio Ruby Rosa. Et puis, cette dépendance aussi vis-à-vis de son père. En plus, il faut ajouter aussi qu'à chaque fois qu'elle est en déprime, voire en dépression, elle est vraiment au fond du gouffre. Il y a vraiment des très, très bas, finalement, dans l'histoire telle que vous nous le racontez, Catherine Bardon. Eh bien, elle se réfugie dans l'alcool, parfois dans la drogue aussi. Ça fait beaucoup de dépendance, quand même, pour Flore de Haro.
Oui, elle a une santé fragile et elle cherche des refuges là où elle peut en trouver.
Elle est anorexique, elle maigrit à vue d'œil.
C'est-à-dire que c'est une...
Il y a une déchéance à la fois psychologique et physique.
Oui, c'est vrai, mais c'est très compliqué ce qu'elle vit. C'est même insupportable, c'est-à-dire qu'elle a l'impression d'être un oiseau en cage à qui on a coupé les ailes, quoi. Donc c'est très compliqué de vivre ça et de se rendre compte que quoi qu'elle fasse, même si elle fait un pas en dehors du pays, elle sera surveillée par les espions de son père, elle sera rattrapée dans les filets de son père, sa mère, restée sur place, souffre aussi de la tyrannie de son père, que même ses demi-frères, qu'elle a appris à connaître au fil de sa vie, souffrent également de cette tyrannie. Donc il y a vraiment un mal extrêmement profond, et je pense que le corps réagit aussi, le corps... à des réponses qui ne sont pas forcément les bonnes.
Donc beaucoup de dépendance, et en même temps, on a l'impression que c'est une fille, une jeune fille, et ensuite une femme qui aspire en permanence à la liberté. Quoi. Elle a une soif de liberté absolument inextinguible, mais en fait, son histoire, c'est une sorte de liberté impossible. Quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle essaye de s'affirmer, il y a un événement, souvent extérieur, qui vient réduire ses projets à néant.
Oui, c'est vrai, notamment dans ses rencontres amoureuses, c'est-à-dire que elles vont à chaque fois quasiment l'amener à un mariage qui n'est pas forcément un mariage voulu, qui n'est pas forcément un mariage heureux, et donc c'est une espèce de spirale, en fait, une espèce de spirale qui l'attire vers le bas systématiquement. Mais moi, j'aime à penser qu'elle a eu des moments de bonheur aussi, des moments de bonheur intense.
Il y en a dans le roman, mais vous n'insistez pas trop dessus. En fait, on a l'impression que ces moments-là sont extrêmement fugaces et que très vite, il y a une forme de malédiction, finalement, qui s'abat sur elle, y compris lorsqu'elle fait un mariage qu'on estime heureux avec un médecin qui est... il y a une soirée du 31 décembre. Mmh. Qui arrive, et le 31 décembre, eh bien, il se passe un drame absolu qui la prive de ce bonheur qui semblait lui tendre les bras à ce moment-là.
Oui, c'est aussi la chose qui doit, à mon avis, là, c'est ce qu'elle a écrit aussi dans le peu de mémoire qu'elle a publié dans le magazine Look, le magazine américain Look. C'est aussi un questionnement pour elle, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui a été voulu par son père?
Oui, elle a des doutes. Elle sait pas si c'est un accident ou pas. Quoi.
Voilà, orchestré
et vous laissez
père,
le doute en suspens, d'ailleurs.
Je pense que le doute subsistera toujours dans sa tête, et c'est terrible d'avoir un doute de cette nature-là, de la même façon que c'est terrible de se constater que dans certains mariages, elle a été complètement instrumentalisée.
En tout cas, nous, lecteurs, on est vraiment en empathie avec elle. Et c'est vrai que la scène du chiot qu'on a entendue au début, dès le départ, fait qu'on est vraiment à côté d'elle. On a envie de lui prendre la main, on a parfois envie de la rassurer, on a parfois envie de lui dire « Mais si, il faut quand même que tu crois au bonheur et ça va bien finir par arriver. » Et puis, ça n'arrive jamais. C'est vraiment... Il y a vraiment une dimension presque de malédiction, d'ailleurs. À un certain moment, elle va voir... on ne va pas tout raconter, mais enfin, à un certain moment, elle va voir des gens qui sont aussi adeptes du surnaturel et qui elle leur livre une part de son intimité, ce qui n'est vraiment pas évident, notamment de son intimité de femme, en particulier à l'époque. Et pourtant, elle a un fort caractère quand même, Fleur Desoreau, Catherine Bardon. Elle est capable de résister, elle a essayé parfois. Par exemple, quand elle était à Berlin, donc avec son mari, elle représentait son pays. Donc on est dans les années 30, on est en 36 en particulier, donc au moment où Hitler est vraiment au pouvoir, on est vraiment dans la montée du nazisme. Eh bien, elle arrive à obtenir pour une amie mariée à un juif un visa. Donc là, elle a l'impression qu'elle se sent utile.
C'est un paradoxe pour elle d'être en Allemagne à cette époque-là, d'être à la table des dignitaires nazis, elle, la petite métisse, en fait. Et elle se rend bien compte que quelque chose ne va pas dans cette gouvernance des nazis. Elle est très consciente de ce qui se passe malgré son jeune âge, parce qu'elle a...
Même si son père est un tyran, un dictateur, le nazisme, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Oui, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et elle va retrouver effectivement une amie de collège qui est juive et qui va lui demander de l'aider. Et là, elle aura vraiment le sentiment de pouvoir faire quelque chose. Et toute sa vie, finalement, elle aura cherché à faire quelque chose de bien, faire quelque chose d'utile, notamment quand elle va partir à Washington. À plusieurs reprises, son père va l'envoyer dans des ambassades dominicaines. Elle y jouera des rôles très, très réduits. Mais à Washington, elle a l'impression qu'elle va pouvoir un peu s'épanouir.
Eh bien, justement, vous faites la liaison. C'est absolument parfait. On lui confie effectivement des missions culturelles en tant que première secrétaire de l'ambassade de Washington. Et vraiment, ce rôle-là, elle va vraiment le prendre à son compte, et elle fait son travail à fond. Dernier extrait, page 195.
Mieux faire connaître son pays, en valoriser la culture, quelle mission passionnante! Elle n'aurait même pas osé en rêver. Pleine d'idées, elle déborde d'énergie et d'initiative. elle donne un cycle de conférences sur la culture dominicaine. Elle soutient un projet de recherche universitaire sur le merengue, cette musique contagieuse née d'un mélange de traditions africaines et espagnoles que T a popularisé. Elle collabore à un documentaire sur la République dominicaine avec le producteur Spiros Couras. Elle rencontre tous ceux qui comptent, prend même le thé à la Maison Blanche avec Eleanor Roosevelt. On parle d'elle dans les chroniques mondaines et mieux, dans les rubriques culturelles des journaux. Pour la première fois de sa vie, Flore se sent utile.
Elle se sent utile, et c'est vrai que c'est un mot très banal, se sent utile. Et pourtant, quand on s'intéresse au dessin de Flore de Haut, on a presque l'impression que c'est un mot magique. On a presque l'impression que c'est la fleur qui est en train de s'ouvrir, là, pour le coup, Catherine Bardon.
D'une certaine façon, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'elle a, elle a envie. Elle est d'une époque, finalement, où les femmes, notamment en République dominicaine, dans cette société bourgeoise, cadenassée, catholique, les femmes n'avaient aucun rôle, si ce n'est de tenir leur foyer. À Bouffémont, d'ailleurs, elle avait des cours de cuisine, des cours de maintien, des cours de. Voilà, pour mener à bien des réceptions, etc. Donc c'est vraiment le rôle qu'on assigne à la femme. Mais finalement, elle naît en 1915 et elle va traverser quasiment le siècle avec les évolutions qu'a connu la femme, enfin les possibilités qui s'offrent aux femmes. Elle va fréquenter des Américaines qui, elles, travaillent plus que ne le font les Dominicaines. Elle a été en France, elle va régulièrement en France, donc elle a une vision européenne, une vision américaine, et elle sait qu'elle pourrait avoir un rôle. Et elle a envie d'avoir un rôle en tant que femme, mais en tant que créatrice, en tant que porte-parole, etc. Et ce rôle, malheureusement, son père le lui refuse, ou quand il le lui donne, il le reprend quasiment immédiatement.
On peut dire que son père lui a volé sa vie ?
Oui, d'une certaine façon, on peut dire que son père a volé sa vie, comme il a volé la vie de milliers de Dominicains, de centaines de milliers de Dominicains.
Qué linda tú estás, esta noche te juro que yo no te pierdo ni pie ni pisa, no te pierdo ni pie ni pisa, vida mía, ni pie ni pisa, esta noche ni pie ni pisa, que no te pierdo ni pie ni pisa.
Ni pissa, le merengue de Lope Balaguer dans VMDN sur RFI. Lope Balaguer qui épouse Flore de Haut en 1954. Catherine Bardon, c'est son premier mariage à lui. Elle, c'est déjà son septième. On ne peut pas dire que ce mariage soit un mariage d'amour. On ne peut pas dire non plus que le portrait que vous brossez de Lope Balaguer soit particulièrement flatteur. C'est un personnage plutôt veule, même c'est un lâche, quoi. Disons-le.
D'une certaine façon, oui, c'est un musicien, c'est un artiste. Lui, ce qui lui importe, c'est sa musique, c'est les émissions qu'il anime, c'est les enregistrements, ce sont ses tournées. Donc, c'était quand même un artiste très connu en Amérique latine, en Amérique centrale, dans les Caraïbes. Donc, il avait des tournées internationales, des enregistrements. Il était très à la mode. Hein. Et effectivement, elle va l'épouser, mais contrainte et forcée, parce qu'elle a eu une aventure d'une nuit avec lui. pluie et le scandale remonte jusqu'aux oreilles de Trujillo.
Ouais, et Trujillo, comme d'habitude, dès qu'il y a scandale, c'est la catastrophe. Ah bah tu te maries ou sinon voilà. Tu n'existes plus,
et là,
donc
laisse Paris. Voilà, puis là on est déjà dans la période des fortes dérives de la dictature avec vraiment les enlèvements, les tortures, des dérives sans nom et Flore va y être confrontée avec un personnage d'ailleurs abominable qui est Johnny Abbess, qui est le chef des services secrets, qu'on trouve d'ailleurs dans d'autres romans. Notamment, je l'ai retrouvé dans « Temps sauvage » de Vargas Llosa, où il a un rôle important, ce Johnny Abbess, qui est un personnage absolument exécrable. Et effectivement, Flore et Lopé vont être obligés de se marier, mais c'est un mariage qui va capoter extrêmement vite, parce qu'en plus, lui va profiter de ce qu'il imagine une manne, c'est-à-dire être le gendre du bienfaiteur de la patrie.
Voilà, mais à chaque fois, évidemment, retour de bâton, parce qu'effectivement, El Jefe crache au bassinet, mais il y a évidemment un retour qui l'attend, et si le retour ne vient pas, eh bien, là encore, il sait précisément comment manipuler et comment agir ceux qui ne satisfont pas ses désirs. Bref, on a une vie trépidante que celle de Flore de Oro, avec quelques moments de bonheur, des très hauts et, je le disais tout à l'heure, beaucoup de très bas, 9 mariages et autant de catastrophes. Ce côté répétitif, ce côté un peu sinusoïdal, hein, on aurait pu s'attendre justement à un roman répétitif, et pourtant le vôtre, il est vraiment très, très addictif. Alors ça, évidemment, c'est l'art de la conteuse que vous êtes. C'est très rythmé, les chapitres sont très courts, les accroches de chapitres sont très efficaces, les chutes de chapitres aussi. On a un peu l'impression que chaque chapitre, au fond, vous l'avez écrit un peu comme une petite nouvelle.
C'est un petit peu comme un tableau avec des touches de peinture voilà, qui se rejoignent, qui se recouvrent un peu, mais qui sont toutes indépendantes les unes des autres, si on les considère chacune. Effectivement, chacun de ces mariages, chacune de ces aventures, chacun des épisodes, c'est un éclairage particulier sur la vie de Flore et aussi sur la dictature, parce que pour moi, en creux dans ce livre, il y a aussi toute une histoire de la dictature et de l'après-dictature. Flore vivra jusqu'en 1978, donc elle connaîtra les régimes successifs, enfin la seconde dictature, on peut dire la dictature de Balaguer, l'oncle du fameux Lopé. Donc il y a en creux quand même toute l'histoire de ce pays qui est très méconnue et que j'avais à cœur de faire connaître.
Vous vous êtes appuyé sur quel genre de documentation pour remonter dans la psyché, la psychologie et dans l'histoire de Flore de Oro ?
Alors il y a très peu de documents disponibles en fait, parce que c'est un personnage assez discret. Donc, évidemment, les essais qui ont été écrits sur la dictature, notamment ceux de Bernardo Vega, qui est le grand historien dominicain de la dictature de Trujillo et qui possède énormément d'ouvrages sur les archives de la famille Trujillo qu'il a gentiment mis à ma disposition. Quelques romans, bon, La fête au bout, par exemple, qui est un autre éclairage sur la dictature, où Flore apparaît, je crois, sur une ligne à peine. Les confessions de Flore, puisqu'elle a à un moment donné voulu écrire ses propres confessions, sa relation à son père. Et on se rend bien compte que dans cet exercice, il y avait quelque chose de libérateur, sans doute. Et c'est le magazine Look qui a publié en deux épisodes ses mémoires. Donc voilà. Et puis les archives dominicaines, c'est-à-dire les unes de journaux, les articles de presse, etc.
Et puis les dialogues, Catherine Bardon, ils sont très réalistes, très, très, très vivant. Alors écrire un dialogue, là pour le coup on est dans le roman pur, ça demande une attention particulière justement quand on met en scène à travers un dialogue des personnages réels.
Je crois que il faut se mettre dans la peau du personnage. Moi j'ai eu beaucoup de pitié d'abord et puis de sympathie et d'empathie pour Flore, et c'est presque devenu une amie au fil de l'écriture. Et c'est vrai qu'en me mettant dans sa peau, en imaginant les dialogues qu'elle pouvait avoir avec son père, les échanges avec ses maris, bon après c'est le travail de l'écriture, mais c'est vraiment en endossant presque son rôle que j'ai bâti ces échanges.
Et puis à plusieurs reprises, vous faites aussi allusion à des photos. Il y en a d'ailleurs quelques-unes dans l'annexe du livre. À la fin, ces photos-là, vous les avez trouvées où ? Comment ? Dans quelles circonstances ?
Ces photos, elles viennent de l'Académie dominicaine d'histoire et des archives nationales qui nous ont donné l'autorisation de les reproduire. Ce sont des photos rares, des photos très vieilles, dans de mauvaises conditions. Ce ne sont pas des photos de très bonne qualité, mais ce sont les rares photos qu'on peut effectivement trouver de Flore et de son père, notamment. Donc des raretés qu'on est très content aux escales d'avoir pu reproduire.
Mais on a l'impression que ces photos sont des portes ouvertes, c'est-à-dire que ces photos-là ont stimulé en quelque sorte votre imagination et votre écriture, c'était le cas?
Ah ben bien sûr, oui bien sûr.
Vous êtes parti parfois de la photo pour relater tel ou tel épisode ou pour vous mettre dans la psychologie de Flore des Oraux, de Trourio, d'autres personnages, je pense par exemple à sa mère, parce qu'il y a une photo aussi avec sa mère, à certains moments de votre récit?
Oui, bien sûr, les photos, elles aident elles aident l'auteur, je dirais, à incarner le personnage vraiment dans ses descriptions. C'est d'ailleurs une photo qui m'a fait rentrer dans la vie de Flore, la photo de couverture.
Alors
où
justement,
on la voit,
décrivez-la nous cette photo, parce que elle est effectivement très intrigante, parce que les deux personnages qui sont sur la photo, en l'occurrence Flore et son père, ont deux attitudes au niveau du visage complètement différentes.
Flore, elle était extrêmement souriante, c'est ce qui la caractérise, un grand sourire triomphant, tout le temps présent. Et donc, effectivement, c'est quand j'ai vu ces photos d'elle, où elle souriait de façon montrant largement ses dents, on avait l'impression qu'elle allait croquer la vie à pleines dents. Et je me suis dit, ce sourire, il cache quelque chose. Qu'est-ce que cache ce sourire? Et effectivement, la photo de couverture la montre avec son père, en tenue de soirée, agrippée au bras de son père un peu absent. Mais on voit dans leur attitude, lui détourne presque le regard, elle est face à l'objectif, mais vraiment accrochée au bras de son père. Et c'est finalement comme ça qu'elle a vécu. Son père l'ignore d'une certaine façon, mais elle reste accrochée à lui et elle brave la vie avec ce sourire.
Est-ce qu'elle est bien la fille de son père?
Alors, elle est bien la fille de son père, mais je pense qu'elle n'est pas la fille du dictateur et que c'est ce qui a fait son... Ce qui a fait son malheur, d'une certaine façon, c'est qu'effectivement, à l'instar d'ailleurs des autres enfants de Trourio, hein, aucun ne s'en est très très bien sorti, plutôt mal d'ailleurs même. Je crois que c'est quelque chose d'impossible à porter, un tel père, c'est les dés sont pipés dès le départ. Donc elle est la fille de son père et elle a été la fille d'un dictateur et elle a été la fille malheureuse d'un dictateur.
Merci, merci beaucoup Catherine Bardon. La fille de l'ogre est parue aux éditions Les Escales. Et bonjour à vous Marjorie Bertin.
Bonjour Jean-François, bonjour Catherine Bardon.
Vous revenez de Montpellier, dans le sud de la France, où c'était ce week-end, le premier week-end du festival Arabesque. Arabesque, c'est le plus grand festival européen dédié aux arts du monde arabe. Et cette 17e édition, eh bien, on pourrait l'appeler « Il était une fois le Oud ».
Et oui, le oud, cet instrument mythique de la musique arabe, ancêtre du luth et de la guitare, est très représenté au milieu des conteuses, du théâtre et des musiciens. Arabesque le célèbre dès l'aéroport de Montpellier à travers une exposition d'une trentaine de photos. Alors on y voit des portraits splendides des plus grands oudistes qui sont passés par le festival. Wahed Bouhassoun, Smadj, Marcel Khalife ou encore le trio Joubran. Alors on les voit jouer, parfois les yeux clos, étreindre leur instrument, le regarder avec tendresse. Pour Habib Deshraoui, le directeur d'Arabesque, cet instrument incarne notamment l'invitation au voyage, bien sûr, d'où l'idée d'installer ces photos à l'aéroport. Alors elles ont toutes été prises par Luc Genepin, qui est le photographe du festival depuis 17 ans. Et sa préférée, elle est terrienne, mais non moins symbolique.
Celle que j'aime beaucoup, c'est celle que j'ai faite avec les trois frères Joubran, trois frères oudistes palestiniens et qui jouent dans toutes les plus grandes salles du monde, hein, qui étaient de passage à Montpellier donc pour le festival. Et il se trouve qu'autour du domaine d'eau, il y a une magnifique oliveraie avec des oliviers plus que centenaires. Et les trois frères sous l'olivier, paisible, avec leur oud, c'est une photo qui a fait le tour du monde. Quoi. Thank you.
fameuse photo de Luc Genepin. Pourquoi justement a-t-elle fait le tour du monde, Marjorie?
Mais parce que l'olivier, vous le savez, c'est l'un des symboles de la paix et c'est aussi un symbole de la Palestine. Donc vous imaginez la portée symbolique de cette photo. D'ailleurs, il est en bois, le oud. Et al-oud, en arabe, ça veut dire le bois, justement. Donc instrument de voyage, c'est aussi l'instrument de toutes les fusions. Il est arrivé en Europe en passant par le Maghreb et l'Andalousie dès le 8e siècle. Et cet héritage arabo-andalou, il fait partie intégrante de la musique du compositeur tunisien Anouar Brahem. Ce maître en chanteur a fusionné le oud et le jazz dès les années 70. Il jouait à arabesque avec son quartet. Alors c'était un concert vertigineux, plein de rondeur et de fusion qui a captivé le public. Vendredi, Anouar Brahem faisait dialoguer son oud avec le bendir et la darbouka, mais aussi la basse et la clarinette. Alors certains morceaux sont extraits du disque The Astounding Eyes of Rita, les yeux envoûtants de Rita. Alors c'est probablement un clin d'œil à Rita justement, la chanson d'une légende, le Libanais Marcel Khalife, grand maître du oud. J'ai eu la chance de l'écouter samedi soir pour la dernière enflammée de Marcel, Mahmoud et moi. Ce spectacle était conçu par son fils Bachar Mar Khalife qui jouait et chantait avec lui. C'est un hommage au Palestinien Mahmoud Darwish dont Marcel Khalife a fait connaître les poèmes, dont Rita, dans le monde entier. Il revient pour nous sur la genèse de ses chansons.
Au début de la guerre, c'était la guerre entre les chrétiens et les palestiniens. Et moi, j'étais avec les palestiniens. J'étais un enfant révolutionnaire. J'étais avec la cause. Au début, c'est les poèmes qui m'ont inspiré. Et le oud, il est toujours avec moi. Alors, regarde, il est toujours là. Et il est comme ma main, comme, je sais pas, comme mon cœur. Je ne lâche pas, il est toujours là. Au début, j'ai chanté par hasard, mais j'ai employé ma voix comme un instrument de musique.
Alors ces chansons, Bachar Mar Khalife, compositeur très rythmique, les a parées de musique très actuelle et dansante. لا تتركيني شاحبا كالقمر كالقمر
Très contemporain, hein, en
oui.
ces reprises. C'est le oud qui inspire comme ça les jeunes artistes en création plus contemporaine.
Mais bien sûr, et arabesque, justement, c'est aussi des résidences de création qui sont proposées à des artistes invités. Alors, le oudiste palestinien Adnan Joubran, du trio Joubran, a participé à l'une d'elles pendant 7 jours pour une création personnelle. Et il donnait samedi son concert de sortie de résidence avec aux percussions et aux grooves électroniques Habib Meftar, un musicien totalement habité, et Valentin Mussou au synthé, clavier et violoncelle. Alors sous ses doigts, le oud devient de la musique ambiante, un peu atmosphérique, planante et néoclassique, en fusionnant tout en finesse avec l'électro, Adnan Joubran.
On peut tout faire avec le oud. Et surtout, il faut qu'on soit honnête avec qu'est-ce qui nous présente, qu'est-ce qu'on aime aujourd'hui, on compose aujourd'hui. La musique orientale peut être si actuelle, si vivante, si différente. Les sonores qu'on utilise, ce n'est pas forcément occidental ou non. Le oud, il n'a pas vraiment simplement un son de oud. Donc même je change le son de oud avec des synthés, avec des effets. Il faut bien doser, il faut oser et bien doser.
Adnan Joubran, à votre micro, Marjorie, a noté qu'Arabesque se poursuit jusqu'au 18 septembre avec d'autres grands noms du oud et pas seulement. Dafer Youssef, Balaké, Sissoko, Labesse ou encore Bédouin Burger s'y produiront. Et vous m'en direz des nouvelles. Merci beaucoup Marjorie. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec Xavier Coste pour son album de bande dessinée L'homme à la tête de lion qui vient de sortir aux éditions Sarbacane. Et là aussi, vous m'en direz des nouvelles. Cette